Bien, donc nous allons parler du livre de Roland Gori, La fabrique des imposteurs. Roland Gori est professeur émérite de la faculté d'Aix-Marseille, professeur émérite de psychopathologie clinique et psychanalyste. Alors, La fabrique des imposteurs, c'est un livre extrêmement vaste, enfin qui déploie beaucoup de questions. C'est un travail de pensée critique. C'est un travail qui utilise aussi le savoir narratif, qui concerne, à partir d'une position et d'un discours d'analyste, des champs très divers, la sociologie, l'anthropologie, la politique. Et ce livre utilise le savoir narratif d'une très intéressante façon, parce que, dans un premier temps, la question de la pensée critique est au premier plan, puis la question de la technicité, de la technocratie, des technomarchands, enfin du lien entre la technocratie et l'économie de marché, vient poser un certain nombre de problèmes que Roland Gori ramène dans le champ de la psychopathologie avec l'étude, une façon de revisiter à la fois la notion de faux self chez Winnicott, la notion de personnalité asif chez Ellen Deutsch, puis il faut évidemment insister sur le fait que c'est un livre qui utilise sans cesse beaucoup de références culturelles, Foucault, Canguilhem, Marx, Ellul, Georg Lukács, Adorno, Max Weber, Lyotard, Marcuse, Anna Arendt, etc. Enfin, je ne vais pas énumérer tous ces gens, au fur et à mesure vous en parlerez. Je souhaite à ce livre la plus large, la plus grande diffusion possible, en fonction du fait que Roland Gori a, ces derniers temps, une attitude extrêmement tonique et interventionniste pour justement ne pas laisser mourir la pensée créative, la pensée critique et la pensée créative. Il y a eu diverses interventions, notamment la pétition « Pas de zéro de conduite » pour réagir à la question du dépistage précoce des délinquants entre 0 et 3 ans, enfin, ou à peine plus. Et ensuite, il y a eu l'appel des appels qui est toujours en cours sur Internet, d'après ce que j'ai compris, qui avait une volonté plus large, une volonté de fédération, de situation, d'études de situations critiques dans lesquelles la réflexion pouvait s'installer. Alors je souhaite donc la plus large diffusion à ce livre. Je me sens tout à fait concerné, tout à fait en accord avec la majorité des éléments. Enfin, je ne vais pas avoir, moi, une pensée critique au sens du débat contre, puisque je suis entièrement pour. Je voudrais vous dire même que je pensais lancer une pétition pour demander le remboursement de ce livre par la Sécurité sociale, mais je pense que ça ne sera pas tellement bien compris. Par ailleurs, on pourrait quand même peut-être éventuellement le proposer sous une forme plus mutuelle, plus coopérative, enfin, ne serait-ce que proposer qu'il soit présent dans les centres d'orientation des écoles, qu'il soit à l'accueil des hôpitaux, qu'il soit dans beaucoup de lieux, dans les usines, dans les lieux où les gens sont concernés au plus haut point, encore plus que par les professions libérales qui sont en voie de prolétarisation, comme vous l'avez parfaitement démontré. Je souhaite donc qu'il soit effectivement le plus lu possible. Alors, en somme, je vais être assez bref pour vous donner la parole. Vous développez vous accomplissez la phrase de Canguilhem, la vie crée ses normes. Après, vous l'accomplissez d'autant plus que vous avez parfaitement démontré, soigneusement, obstinément, de manière tout à fait précise, la fonction d'extinction de la créativité qui est en cours par le biais de du mariage techno-marchand et d'une certaine façon par le biais de toutes ces démarches qualités qui ne font que se numériser, qui font que tout le discours, toute la possibilité de parole disparaît et s'évanouit derrière la question de la numérisation. D'ailleurs, vous avez des exemples très frappants à ce sujet, l'histoire de Winnicott, du diagnostic inaugural de Winnicott, enfin la raison pour laquelle il a commencé une analyse, peut-être que vous en parlerez tout à l'heure. Et ce développement, à partir de ces notions qui datent quand même de maintenant plus de 60 ans, hein, les formulations de Canguilhem, la formulation de Canguilhem, elle a 55 ans, quoi, ou quelque chose comme ça. La façon même dont ça a été repris par Foucault. Et d'une certaine façon, après donc avoir démontré que les normes visent à éteindre la vie, c'est-à-dire les normes, la gestion des normes, la façon technocratique et marchande, l'homologie qui s'est installée, et c'est là qu'est la question politique, l'homologie qui s'est installée entre, disons, les alliances des manières de gouverner et les modes de gestion de l'économie, cette démission politique fait que la crise vaut une réflexion et une discussion tout à fait nécessaire. Est-ce que ça sera possible de la faire entendre? Vous le verrez, on le verra. Mais je pense que peut-être vous pourriez développer cette question du passage de la norme et comment la norme, la normativité, l'activisme normatif, en quelque sorte, attaque l'expérience de l'individu, attaque même son comportement, sa possibilité d'exister, et aussi, évidemment, sa créativité. Si vous voulez...
Bien. Eh bien, merci Patrick Lacoste, et bonsoir à tous, et un grand merci d'être là pour le débat. Malgré les conditions météorologiques, malgré l'heure qui, paraît-il, n'est pas une heure idéale, donc je vous remercie d'être ici. Alors, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses, et c'est toujours, étant donné que je ne veux pas entrer dans l'avenir en reculant, puisque justement je vais essayer de montrer qu'aujourd'hui le déclin du politique provient de ce qu'il appréhende l'avenir simplement comme un reflet du passé. C'est-à-dire, n'est-ce pas, en fonction, si vous voulez, des comportements antérieurs. On le voit tous les jours, aussi bien au niveau des individus, puisque finalement, pour prendre des exemples très concrets, parce que je pense que c'est un débat, c'est pas une conférence que vous me demandez, n'est-ce pas, prendre des exemples très concrets, on sait qu'aujourd'hui, du côté de la psychiatrie, il y a une méthode qui fait fureur en Amérique du Nord, qui s'appelle la méthode actuarielle, qui est qu'à l'heure actuelle, pour déterminer le degré de dangerosité des comportements, d'ailleurs on ne parle plus de dangerosité des comportements, parce que ce serait qualifier en quelque sorte un individu, on parle du risque de récidive de comportement délinquant. Ce n'est pas la même chose, puisque ça signifie, si vous voulez, que le sujet est réduit à la somme de ses comportements. Eh bien, cette méthode actuarielle fait qu'à l'heure actuelle, par exemple, on n'a pas besoin d'avoir un entretien clinique ou une expertise d'un psychologue ou d'un psychiatre pour savoir si telle ou telle personne, n'est-ce pas, risque de récidiver des comportements déviants. Il y a des échelles de diagnostic qui reposent sur des items essayant de déterminer les comportements du passé, c'est-à-dire pour aller très vite et pour faire très simple, n'est-ce pas, l'absence l'absentéisme scolaire lorsqu'il était enfant, des petits troubles délictuels à l'adolescence, la consommation de stupéfiants ou l'alcoolisme, une famille un peu dissociée, bref, si vous voulez, tout un ensemble d'items qui déterminent le degré de probabilité de récidive du comportement. Alors, je vais revenir là-dessus parce que je pense que c'est un point très important. Cette méthode actuarielle, n'est-ce pas, finalement, elle établit le coefficient de risque de voir réapparaître un comportement qui a été jugé dans le passé, si vous voulez, problématique, et donc à risque pour l'éviter. Alors c'est ça, hein, notre société, elle fabrique du risque, elle fabrique un individu à risque, et elle place, la psychiatrie place aujourd'hui, n'est-ce pas, les sujets dans des sacs de population à risque, et c'est un point important. Mais cette méthode actuarielle, si je vous en parle pour commencer, c'est parce qu'elle provient d'une méthode de calcul bien connue, du calcul du montant des primes d'assurance, en fonction des éléments de morbidité qui sont les vôtres et qui font qu'effectivement, vous risquez davantage, n'est-ce pas, de mourir si vous êtes plus âgé plutôt que jeune, si vous avez un comportement à risque plutôt qu'un comportement très pépère, si vous avez déjà eu un certain nombre de morbidités somatiques ou psychiatriques. C'est-à-dire que, en somme, l'individu est donc appréhendé de la même manière que le montant d'une prime d'assurance. Et vous avez là une matrice d'intelligibilité du monde, hein, totalement. Alors, je reviendrai sur ce point, mais peut-être juste pour lancer déjà un point de discussion, on peut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des dispositifs d'évaluation, qu'il s'agisse des dispositifs d'évaluation des milieux professionnels, c'est-à-dire du soin, de l'éducation, de la recherche, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur, ou bien du travail du magistrat, ou du travail du policier, ou bien encore l'évaluation des comportements à risque des enfants de maternelle auxquels vous avez fait allusion et autres, tous ces dispositifs sont fondés sur la même manière et sur les mêmes critères que les agences de notation sur les marchés financiers. C'est-à-dire, c'est émettre une opinion que l'on fait passer pour étant scientifique, alors qu'elle n'est pas scientifique, et que la plupart du temps, d'ailleurs, comme vous le savez, elle n'a jamais rien prévu. Les agences de notation financière n'ont jamais prévu, bien évidemment, ni la crise de 29 où les titres étaient au plus haut avant l'effondrement, ni la crise de 97-98, ni bien sûr la crise de 2000, ni la crise de 2007-2008. Jamais les agences de notation financière n'ont, en somme, prédit scientifiquement l'effondrement ou l'évolution même du marché. Donc c'est émettre une opinion. Et d'ailleurs, elles sont protégées par la Constitution américaine si on veut les poursuivre en tant qu'elles émettent une opinion et non pas un diagnostic. Elle repose également, cette opinion, sur, on va dire, une rumeur. Et donc, on va revenir à la question, je parle de l'imposture. Elle repose sur une rumeur, c'est-à-dire sur un ensemble, si vous voulez, d'éléments apparents, sur une marque, sur une réputation qui fait qu'effectivement, n'est-ce pas, on va accorder plus ou moins de crédit, on va revenir donc sur cette question, il y a plus ou moins de crédit, si vous voulez, à telle ou telle instance, que ce soit un État, que ce soit une collectivité territoriale, que ce soit un emprunteur privé et autres. Donc on va déterminer, en somme, on va émettre une opinion sur la capacité qu'a quelqu'un de rembourser ce qu'il va emprunter. Ce qui fait basculer à un moment donné les choses, c'est que à partir de 1970, n'est-ce pas, les agences de notation financière ne sont pas rémunérées pour leurs prestations par ceux qui prêtent l'argent, n'est-ce pas, mais par ceux qui empruntent l'argent. Et donc à partir de ce moment-là, je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais à partir de ce moment-là, vous avez véritablement des problèmes de conflits d'intérêts et autres qui se posent bien évidemment. Alors, c'est un point extrêmement important parce que si, on ne va pas développer ce point-là ce soir, mais si vous réfléchissez, aujourd'hui ce qui s'impose dans le champ de la psychiatrie, dans le champ de la psychopathologie, si vous voulez, ou dans le champ de l'évaluation pédagogique, ou dans le champ de l'évaluation des travaux de recherche, ou dans le champ, n'est-ce pas, du travail des policiers, c'est la même chose, c'est pareil. Ce sont les mêmes modèles, ce sont des critères qui doivent être quantitatifs la plupart du temps, les chiffres, qui doivent être formels, qui reposent sur des procédures. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une société qui conçoit la valeur comme entièrement soluble dans la pensée des affaires et du droit. C'est-à-dire soit le calcul d'une rentabilité immédiate, même si ça coûte beaucoup plus cher à terme. On pourrait prendre des exemples très précis, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, pour obtenir des accréditations de laboratoires de recherche, vous devez avoir fait soutenir tant de thèses par an, ou bien vous devez avoir publié tant d'articles dans des revues de marque. C'est des revues à fort impact factor. Qu'est-ce que c'est un impact factor ? C'est un taux de citation, c'est-à-dire c'est un indice de popularité sur le marché de la production scientifique. Donc, vous voyez, on pourrait reprendre l'exemple. Donc, vous allez avoir des chercheurs qui vont déterminer des stratégies. L'imposture, elle commence là. Je vais entrer dans le détail de l'imposture, mais elle commence là. C'est-à-dire qu'on va déterminer des stratégies pour répondre aux exigences normatives d'un environnement, même si ces exigences ne sont pas, et on va y venir, ne sont pas légitimes. Même si elles ne se fondent pas sur la réalité, même si elles sont déconnectées de l'économie réelle, c'est les bulles spéculatives, mais même si elles sont déconnectées, je dirais, de l'existence, de l'expérience ordinaire du sujet. Donc nous sommes vraiment dans un monde assez formel, c'est-à-dire que ce que nous propose notre civilisation des mœurs, ce sont, si vous voulez, des éléments très rationnels qui sont déraisonnables. Nous sommes dans quelque chose d'un rationalisme, pourrait-on dire, morbide, dans un monde très dévitalisé. Et bien sûr, par moment, heureusement, je dirais presque, le système craque et montre effectivement qu'il est déconnecté par rapport à la réalité, que ce soit par rapport à la réalité économique ou que ce soit par rapport à la réalité existentielle d'un sujet ou à la réalité politique d'un peuple. Mais peut-être, juste avant d'aborder la question de l'imposture, n'est-ce pas ? Si vous voulez, pour prendre deux exemples, que vous preniez l'individu ou que vous preniez un peuple ou un pays, n'est-ce pas, il va tricher, il va feinter, il va camoufler, il va maquiller à partir du moment où on va lui demander, n'est-ce pas, des comptes, où on va lui demander de répondre à des normes auxquelles il ne peut pas faire face. C'est-à-dire que ce que l'on constate du point de vue de la psychopathologie de l'imposteur, c'est qu'il s'agit bien souvent d'individus, n'est-ce pas, par rapport auxquels l'environnement les a obligés à vivre au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire, pour être aimé, il devait correspondre à un idéal, n'est-ce pas, qui n'était pas, pourrait-on dire, à la mesure même des moyens psychologiques ou physiologiques même qui étaient les leurs. Et donc, du coup, ils produisent des trucs comme le mensonge. Le mensonge chez l'enfant, parfois, le mensonge chez l'enfant, qu'est-ce que c'est ? C'est, en quelque sorte, n'est-ce pas, si vous voulez, la défense, la stratégie qui est prise face à un environnement intrus qui exige trop de transparence de lui. Et donc, il place comme un fétiche. Je vais essayer de revenir sur ce point, n'est-ce pas ? L'imposture, le mensonge, ce sont des fétiches, simplement, ce sont des formes de vie qui font le fétiche, ce n'est pas un objet, n'est-ce pas ? C'est la forme de vie qui fait fétiche. Eh bien, vous prenez un individu, il va fonctionner comme ça. C'est-à-dire que face, bien sûr, à ce qui est exigé de lui, il va tricher. On reviendra là-dessus. Et puis, vous prenez un peuple, et bien sûr, je pense à un peuple européen qui a été un peu maltraité ces dernières années, comme vous savez, n'est-ce pas ? À ce peuple, on lui demande finalement d'avoir des chiffres qui correspondent à ce qui est exigé, n'est-ce pas, par des instances financières, des puissances financières, des puissances politiques. Et bien, il va traficoter ces chiffres. Il va répondre à l'exigence normative. Donc, vous voyez, je crois qu'il faut bien comprendre que l'imposture est la sœur siamoise du conformisme produit par des exigences normatives exagérées. C'est une réponse. C'est-à-dire qu'il y a une part de l'environnement dans la fabrique de l'imposture. Vous ne pouvez pas dissocier, n'est-ce pas, l'imposteur de son environnement. Que vous preniez un individu, que vous preniez, si vous voulez, un peuple, que vous preniez une société, un groupe social et autres. Alors, bon, on reviendra sur cette question. Un mot, parce qu'effectivement, comme il y a plusieurs entrées, comme vous l'avez compris, je suis toujours en train de me demander laquelle je vais emprunter. Vous avez compris que je n'ai pas encore commencé, bien sûr. Bon. Il faut bien voir que chaque société, enfin, les imposteurs ont toujours existé, bien sûr, dans toutes les sociétés. Ça, c'est un autre problème. Je ne vais pas, bien sûr, dénier l'existence, si vous voulez, d'une structure subjective particulière. C'est pas la question. J'essaie de montrer que chaque société à les imposteurs qu'elle mérite. C'est-à-dire, au XVIIe siècle, prenez Molière, il produit Tartuffe. Tartuffe ou l'imposteur. Tartuffe ou l'imposteur. Tartuffe ou l'hypocrite, puisque vous savez qu'il y a deux versions chez Molière de cette pièce. Et à ce moment-là, l'imposteur, c'est quoi? L'imposteur, c'est quelqu'un qui, pour son bénéfice personnel, pour ses profits privés, plaisirs et autres, va se mettre à singer des signes de dévotion, des signes religieux. Il va donc faire des génuflexions sans avoir la foi. Et il va abuser, séduire, tromper comme ça. C'est-à-dire que nous sommes là face à une société au sein de laquelle les valeurs empruntent au sacré, empruntent à la religion. Bon, on pourrait prendre des exemples, bien évidemment, de doctrine politique, de doctrine idéologique. Faire semblant, c'est ça le truc, c'est faire semblant, se camoufler. Bon. Aujourd'hui, ou bien encore, n'est-ce pas, les imposteurs, vous savez qu'on appelait les chevaliers d'industrie. C'est très intéressant. Les chevaliers d'industrie, c'est quoi les chevaliers d'industrie? Les chevaliers d'industrie sont des personnages, n'est-ce pas, de romans espagnols, picaresques, la plupart du temps, qui finalement ne sont pas nobles et qui essaient d'usurper une place qu'ils désirent en bricolant quelque chose pour pouvoir y parvenir. Donc c'est très intéressant de remarquer, ils vivent d'ailleurs d'expédients, hein, c'est très intéressant de voir comment ils s'en sortent. On reviendra peut-être sur le roman de Thomas Mann que vous connaissez, Les Confessions d'un chevalier d'industrie, Félix Krull, qui est une pure merveille, ce roman, je vous le recommande, hein, bien évidemment. Alors, n'est-ce pas, on peut s'inventer une origine aristocratique. On peut s'inventer des titres de noblesse. Aujourd'hui, l'imposteur, bien sûr, vous en avez encore un peu, n'est-ce pas? On va usurper un titre de médecin, on va usurper, bon, mais d'un type de professeur d'université, tout ce que vous voulez. C'est finalement des hommes de bien, il reste un tout petit peu de pouvoir, pas grand-chose, mais un tout petit peu. Bon, mais c'est pas ça. Les plus grandes impostures aujourd'hui, c'est la petite monnaie de l'imposture, c'est-à-dire le traficotage des chiffres qui fait que tel professeur de psychologie sociale qui vient de se faire attraper, il a publié 200 articles pour des expériences qu'il n'avait pas faites, mais il était tellement pris dans le système, on voulait tellement qu'il produise, puisque à l'heure actuelle, ce sur quoi vous êtes évalué en tant que chercheur, c'est un indice de production quantitative, n'est-ce pas, nombre d'articles publiés, et formel, dans des revues à comité de lecture, et bien évidemment idéologiques, dans des revues à comité de lecture anglo-américaines, essentiellement, n'est-ce pas? Et alors du coup, j'étais dans un colloque récemment avec le paléontologue très célèbre qui est Henri de Lumley, qui disait, c'est l'histoire du chercheur, il a trouvé une dizaine de dents dans le rift marocain, si vous voulez, et on peut dater ces dents de 8000 ans ou 5000 ans, je ne sais plus, etc. Au lieu de publier un article faisant état de sa découverte, il publie 10 articles, un par dent. Hein, et du coup, il a 10 fois plus, bien évidemment, à ce moment-là, d'articles scientifiques dans son CV.
Il publiait 8000, un par année.
Oui, c'est vrai, mais ça, je pense qu'il n'y a pas pensé. Puis c'était quand même peut-être un peu gros. Mais c'est très grave. C'est très, très grave. C'est très, très grave parce que ça veut dire aussi que, bien sûr, l'imposteur est dans notre civilisation comme un poisson dans l'eau. Puisque justement, ce sur quoi on va évaluer, c'est quoi? C'est sur la forme, c'est pas sur le fond. C'est, si vous voulez, sur des critères de conformité, c'est pas sur des critères de vérité. C'est sur l'opinion, c'est sur la rumeur, c'est pas sur les vertus. Et c'est très très important. J'étais ce matin sur France Culture au Nouveau Chemin de la Connaissance avec Philippe Petit et Irène Frachon. Vous pouvez podcaster d'ailleurs l'émission si ça vous intéresse, parce qu'Irène Frachon est quelqu'un d'absolument merveilleux, d'un courage absolument splendide et qui, vous le savez, n'est-ce pas, à un moment donné, constaté que les patients qui prenaient du Mediator pour maigrir et qui utilisaient donc un antidiabétique de deuxième ligne comme coupe-faim, se trouvaient avec des lésions cardiaques, des valves et ensuite des insuffisances, des hypertensions artérielles pulmonaires. Et alors, elle nous racontait comment elle a été prise, elle, parce qu'elle lisait justement ce qu'elle voyait. C'est une praticienne d'un hôpital, ce qu'elle voyait dans les services, elle voyait des gens mourir. Hein, 2000, sans doute 2000 patients, 500 d'après l'agence de santé et 2000 d'après notre association.
Mais c'est comme dans les manifestations, selon la police et selon les manifestants.
Oui, oui. Mais là, on est sûr qu'ils sont morts.
Ouais.
Et ça, c'est terrible. Ça, c'était parce qu'il nous a raconté comment, justement, on l'avait baladé de commission en commission. Comment on avait pu refuser certains de ses articles, et les reviewers, c'est les lecteurs de ses articles, étaient des gens qui représentaient tel laboratoire à ce moment-là, dans tel pays, etc. Donc, si vous voulez, il faut bien voir que là, il y a vraiment, à mon avis, hein, bon, détaillé si vous voulez, mais à mon avis, il y a véritablement une élimination symbolique des récalcitrants. On ne les tue pas physiquement, on les placardise. Et on met en place, pourrait-on dire, des réseaux de censure qui opèrent non pas sur le contenu de ce qu'ils font. Je vais être très concret. Bien sûr que vous pouvez enseigner la psychanalyse à l'université. Bien sûr que vous pouvez faire de la recherche psychanalytique à l'université. On ne vous l'interdit pas. On ne vous l'interdit pas. Mais ça ne comptera pas. Vous serez placardisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la censure sociale, elle n'opère pas sur les contenus des discours, elle opère sur les grammaires de production de ces discours. C'est-à-dire que, vous, je vous donne un exemple très concret, allez. À quel moment, j'ai été pendant 7 ans expert au ministère de la Recherche, j'ai été pendant 15 ans élu au Conseil national des universités, j'ai été même président et vice-président de ma section. Bon, à partir de quel moment j'ai refusé de faire des expertises? J'ai refusé de faire des expertises à partir du moment où cette abominable chose qu'ils appellent l'AERES, l'Agence d'évaluation de la recherche et l'enseignement supérieur, a publié une liste des revues dites qualifiantes, et les revues dans lesquelles il fallait publier pour pouvoir être recruté comme maître de conférence ou professeur dans des universités en psychologie, en psychopathologie, etc., où il y avait 98,5% de revues anglo-américaines. Alors, moi, j'ai rien contre... Je respecte le peuple américain, j'ai rien contre la culture américaine, je suis très, très admiratif par rapport à cette langue, mais sauf que c'est moins la langue de Shakespeare qu'on parle aujourd'hui que celle de Wall Street, comme vous savez. Mais le problème, c'est qu'aux États-Unis, la psychanalyse, la phénoménologie, la psychothérapie institutionnelle n'ont jamais trouvé, si vous voulez, accueil dans les départements de psychologie. C'était en psychiatrie pendant un temps, maintenant c'est dans ce qu'on appelle la littérature comparée, c'est-à-dire l'histoire des idées, mais pas en psychologie. Donc ça veut dire que accepter de ratifier, voyez, cette proposition de 98,5% de revues anglo-américaines, ça veut dire finalement signer l'acte de décès de toute une discipline qui est la psychologie clinique, la psychopathologie, et tout un référentiel qui est la psychanalyse, la phénoménologie, la psychothérapie institutionnelle. Donc c'est comme ça qu'on procède. C'est qu'on met en place des systèmes formels et procéduraux, pourrait-on dire, qui souvent se fondent sur du quantitatif, et qui du coup font disparaître des pans entiers de recherche. Alors vous allez dire, oui, mais ça, là c'est encore tout d'un télo, ça vous allez... Vous... Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, je peux vous dire que l'Appel des Appels, qui est un mouvement collectif qui se porte bien, il faut aller sur le site de l'Appel des Appels, vous verrez, il y a des livres qu'on publie, il y a des journées qu'on organise, il y a des articles, il y a des vidéos, il y a du travail qui se fait, qui continue à se faire, si vous voulez. Et puis, vous pouvez signer, on dirait, à presque 90 000 signataires. Ce qui nous a frappé, c'est ça. C'est-à-dire que quand on a rencontré... C'est un peu ça l'Appel des Appels, vous voyez Patrick, c'est-à-dire que quand, finalement on s'est aperçu que ce qui pouvait se passer pour nous, psychanalystes, psychologues, psychiatres, infirmiers, orthophonistes, se passait aussi pour les magistrats, se passait aussi pour les journalistes, qui sont évalués sur quoi? Sur une logique d'audimat. Ils sont évalués sur leur capacité à fidéliser un public, à fidéliser des auditeurs, à fidéliser des spectateurs. La qualité d'une émission, n'est-ce pas, ne se mesure pas à l'impact qu'elle a sur la formation et de l'esprit critique des citoyens, sur si vous voulez la manière dont elle va mobiliser un citoyen pour qu'il prenne conscience de l'importance de ses décisions pour la cité. Pas du tout. C'est purement et simplement la société de la marchandise et du spectacle dont Guy Debord nous a beaucoup parlé. Et je cite abondamment Guy Debord dans ce livre, comme dans le précédent d'ailleurs, parce que quand Guy Debord dit « le vrai est un moment du faux », quelque chose de terrible, et qui est très très vrai. Le vrai est un moment du faux. L'évaluation aujourd'hui, c'est qu'il y a une évaluation quantitative, formelle, procédurale. Si vous voulez, cette évaluation, elle fait que vous regardez le compteur, et vous ne regardez plus la route. Et c'est comme ça que vous allez dans le décor. C'est comme ça que vous allez dans le décor. Et c'est vrai, non seulement en psychiatrie, en psycho et autres, c'est vrai non seulement à l'université, mais c'est vrai dans le soin. Puisque la tarification à l'activité, la fameuse T2A, fait que ce sont les actes les plus techniques qui sont les plus valorisés, que que bien évidemment, il y a toute une stratégie, alors on y vient à l'imposture, il y a toute une stratégie qui est induite chez les soignants et les médecins pour optimaliser la facturation de leur acte de soins. Il y a des logiciels pour ça. On leur apprend à surfacturer l'acte de soins. Ça n'est pas éthique. Et là, il y a la souffrance au travail des professionnels. C'est aussi ce conflit de loyauté entre l'éthique de leur métier et puis l'idéologie et la logique gestionnaire et de rentabilité à court terme. Hein, de rentabilité à court terme. Il ne faut pas l'oublier, ça y reviendra. Mais ça n'est pas non plus économique, puisque ça coûte plus cher à la collectivité et à la sécurité sociale. Donc vous l'avez au niveau, par exemple, des policiers. Siem Swede a fait un travail qui s'appelle L'Omerta dans la police, où elle raconte comment la politique du chiffre, on est en train d'en parler en ce moment, d'ailleurs il y a les chiffres de la délinquance, n'est-ce pas, la politique du chiffre conduit les policiers, par exemple aux frontières, à froisser les passeports, parce que du coup ils les examinent, ils ont fait un bâton de plus. Donc vous voyez, je vais venir, je n'avais pas encore commencé mon topo sur les impostures, mais vous voyez, partout, en gros, vous voyez des comportements qui sont des comportements de camouflage, de dissimulation, de simulation, de semblant, pour répondre à des exigences normatives qui sont peut-être totalement déraisonnables. C'est vrai que la vie crée ses propres normes. Il y a une très belle phrase de Canguilhem que j'aime beaucoup, n'est-ce pas ? C'est « La raison est régulière comme un comptable, la vie anarchiste comme un artiste. » Eh bien, peut-être qu'on pourrait presque en rester là. C'est-à-dire que c'est quoi l'imposture ? Face, si vous voulez, à des exigences rationnelles qui sont irrationnelles et déraisonnables, disons les choses très simplement, n'est-ce pas ? Face, si vous voulez, à des exigences normatives qui se prévalent de la raison et qui ne sont que des abus de pouvoir. Très beau texte de Bourdieu sur, n'est-ce pas, ces abus de pouvoir qui se légitiment de la raison. Et qui ne sont pas rationnels, hein, en plus, bien évidemment. Si vous voulez, face à ces exigences, vous avez la stratégie de l'imposture. Vous feintez. Le type triche. Moi, je peux vous dire, alors, dans les dossiers, vous n'imaginez pas. Vous avez le médecin qui va, par exemple, pour faire un deuxième acte de soins, n'est-ce pas, qui va être davantage payé si le patient vient une deuxième fois, parce que ce sera le premier acte à ce moment-là, et non pas le deuxième, il va le faire sortir, il va le faire revenir. Vous avez des tas de stratégies, c'est épouvantable, où vous allez avoir des infirmières en souffrance parce que le médecin va prescrire que cette dame un peu âgée, qu'elle voyait tous les jours, n'est-ce pas, qu'elle soutenait, eh ben, il ne peut pas parce qu'il est en ce moment sous pression, qu'on lui dit qu'il prescrit trop, alors elle ne le verra plus que cette personne, n'est-ce pas, qu'une fois tous les trois jours. Donc vous avez un truc qui est complètement fou, dont on ne se rend pas compte du coût humain et économique que cela impliquera, bien évidemment, à terme. Donc, je crois que si vous n'avez pas, encore une fois, cette soumission sociale librement consentie à des normes qui sont folles, l'autre stratégie, c'est pas compliqué, c'est du côté de la politique, c'est du côté du politique qu'on viendra, parce que le politique aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est absolument terrifiant, le politique aujourd'hui, il s'est effondré. Je veux dire que les normes s'accroissent au moment où vous avez un effondrement de l'autorité politique. C'est-à-dire là où il y a une crise de l'autorité politique, la pression normative s'accroît. C'est-à-dire que, paradoxalement, on aggrave la maladie en pensant la traiter en augmentant les directives, en augmentant, si vous voulez, les calibrages, etc. Hein ? Aujourd'hui, on calibre les comportements comme hier on calibrait les tomates. Hein ? Et on va là perdre quelque chose qui est de l'ordre de la singularité et qui est de l'ordre de la création. Alors, ceci pour dire, et je vais essayer quand même de vous présenter un petit peu mon bouquin, ceci pour dire, si vous voulez, que, bien sûr, que la solution à l'imposture, comme je l'appelle dans le livre, la solution de l'imposture, bien sûr, elle se déduit d'une stratégie visant à absorber comme une éponge vivante, n'est-ce pas, les marques, les valeurs et les signes du milieu, et puis à faire semblant avec pour pouvoir survivre. Mais ce n'est pas très rigolo. Ça donne aussi bien pour les individus que pour les peuples, bien sûr, une vie très apathique, une vie très stérile. Mais l'autre chose, c'est la culture. Il faut mettre le paquet sur la culture. La culture et le politique, c'est la même chose. Vous savez, Gramsci considérait qu'il y avait une consubstantialité du politique, n'est-ce pas, et de la culture. La culture, c'est pas seulement, bien évidemment, les scénarios de divertissement et de destruction, de divertissement et d'oubli, n'est-ce pas, de l'existence, de distraction. La culture, c'est pas fait pour oublier, n'est-ce pas, la vie pénible que vous pouvez avoir tous les jours. La culture, c'est en quelque sorte, n'est-ce pas, les éléments qui vous permettent justement, par une expérience singulière, de vous articuler un récit collectif qui donne un sens et une histoire à votre vie. Or, aujourd'hui, et alors je parlais des journalistes, là c'est frappant, je peux vous dire que je connais un peu le milieu, n'est-ce pas, ils sont sous une pression telle que ce qu'ils doivent apporter, c'est des scoops. Alors du coup, d'ailleurs, vous ouvrez une chaîne de télé ou une autre, vous ouvrez un journal ou un autre, vous avez les mêmes infos, les mêmes trucs. Il n'y a plus d'analyse politique, il n'y a plus d'analyse culturelle, il n'y a plus d'analyse, si vous voulez, intellectuelle. Hein ? Aujourd'hui, justement, l'expert émerge sur les vestiges de l'intellectuel. Hein ? L'intellectuel est mort, que ce soit l'intellectuel organique ou l'intellectuel spécifique de Foucault, l'intellectuel aujourd'hui est mort, c'est l'expert. L'expert qui, bien évidemment, a une compétence qui est limitée au cul d'un confetti et qui va pouvoir vous donner, n'est-ce pas, bien évidemment, une prescription sociale sur la manière dont vous devez vous conduire. Il n'y a qu'à voir un certain nombre, moi j'adore voir un certain nombre de vidéos, regardez par exemple le film Les Nouveaux Chiens de Garde, où vous avez des gens affirmant que, bien évidemment, le marché s'est toujours autorégulé, on le sait depuis les physiocrates, ça, hein. Une autorégulation du marché, il faut laisser faire le marché, et donc vous laissez réguler, vous laissez le marché tranquille, il s'autorégule, et puis tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes, quelques semaines, quelques jours, avant bien évidemment l'éclatement de la crise et des différentes bulles spéculatives. Alors, voilà, donc mon propos pour essayer un petit peu de reprendre, c'est de dire aujourd'hui, nous sommes dans une forme dégénérée de démocratie qui est la démocratie d'expertise et d'opinion. La démocratie d'expertise, c'est celle qui fait que notre décision politique, notre manière de concevoir la vie ensemble, eh bien, elle se trouve confisquée par les experts. Il faut mettre un terme à ce truc-là. Parce que, bien évidemment, n'est-ce pas, cette expertise, j'ai rien contre les experts, mais cette démocratie d'expertise, elle vous prive du débat. Elle vous prive du débat, puisque ce sont des experts qui savent pour vous. Ils ne savent pas grand-chose, mais c'est un autre problème, n'est-ce pas ? Et là, c'est absolument terrifiant, parce que le fondement de la démocratie, bien sûr, je pense à la démocratie athénienne, entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, bien évidemment, n'est-ce pas ? Mais je pense aussi, et je pense que quelqu'un comme Amartya Sen a écrit la démocratie des autres, justement, il y a d'autres formes de démocratie ailleurs qu'en Occident. Mais en tout cas, le point commun de toutes les démocraties, c'est un gouvernement par la discussion. C'est un gouvernement par le débat, n'est-ce pas ? Or, si vous avez un expert, à ce moment-là, il n'y a plus de débat. Puis, allez, on va savoir si ça va être bleu, rouge ou vert, mais pas beaucoup plus, n'est-ce pas ? Et là véritablement, on spolie, n'est-ce pas, les citoyens, on les prolétarise, pour aller vite. C'est-à-dire qu'effectivement, leur capacité, leur pensée est confisquée, si vous voulez, par l'expertise. Et ce d'autant plus, on va y venir, et ce d'autant plus que nous sommes dans un univers où il faut faire vite. Il faut dans un univers de l'urgence, de la rentabilité à court terme. Vous savez, il y a une très belle phrase de Lyotard qui dit: dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut, mais incorrigible, d'en faire perdre. Ouais, donc aujourd'hui, pour vous faire gagner du temps, on pense pour vous. Et Adorno, effectivement, Patrick le rappelait tout à l'heure, Adorno avait dit que la force des industries culturelles, des industries de la culture, c'est un mot rime ça, les industries de la culture, la force des industries culturelles, c'est qu'elles simplifiaient la manière de penser. C'est qu'elle simplifie la manière de penser. Et notamment, pour le journalisme, on sait bien que c'est effectivement, n'est-ce pas, cette simplification, ce mode d'emploi, hein, un verbe, un sujet, un complément. Vous ne pouvez pas avoir, comme disait Bourdieu, une pensée pensante. Il ne faut pas citer, d'ailleurs. Chaque fois, mes copains journalistes me disent, là, tu étais sur tel plateau, tu as cité un Arendt. Ça ne se fait pas, tu as un Arendt. Tu es sur un plateau, tu as 3 minutes, tu ne vas pas citer un Arendt. Hein, voilà. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas dérouler la pensée. Il faut essayer de faire passer, comme des flashs, si vous voulez, absolument, une idée, pas plus, que vous répétez plusieurs fois. Donc, on est dans quelque chose qui est, encore une fois, absolument abominable. Alors, je trouve que cette question d'imposture m'intéresse beaucoup parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'imposteur, finalement, je dirais que c'est un martyr du lien social. C'est-à-dire qu'il vient témoigner à un moment donné de la comédie sociale des mœurs. Il vient témoigner, si vous voulez, des valeurs qui sont à un moment donné organisatrices d'une société. Et aujourd'hui, l'imposture, eh bien, vous la voyez pas du côté de la religion, ou si plutôt, vous la voyez du côté d'une religion, ce que Pasolini appelait la religion du marché. Vous savez, quand Pasolini évoque, j'en ai parlé dans un autre bouquin, mais quand Pasolini évoque justement cette analyse linguistique d'un slogan publicitaire, vous connaissez ce texte des années 70, il est très intéressant parce que Pasolini fait l'analyse d'un slogan publicitaire qui est le suivant. Il s'agit d'une publicité pour une marque de jeans. La marque de jeans, c'est Jésus. Et le slogan publicitaire, c'est « Tu n'auras pas d'autre jean que moi ». Et Pasolini dit « Comment se fait-il que dans une Italie soi-disant très religieuse, soi-disant très catholique, n'est-ce pas, comment se fait-il qu'on puisse tenir un propos blasphématoire et qu'on détourne un commandement religieux, n'est-ce pas, à des fins de propagande consumériste ?» Et la réponse de Pasolini est la suivante, n'est-ce pas ? C'est parce qu'aujourd'hui, l'ordre bourgeois n'a plus besoin des valeurs traditionnelles de la patrie, de la famille, de la religion, etc. C'est plus la peine. Parce que, justement, la marchandise est devenue son propre ordre religieux. Et, pour employer un mot un peu pédant, la donation ontologique des objets dans le monde, la manière dont les objets nous apparaissent, n'est-ce pas ? Eh ben, n'obéissent plus qu'à une seule injonction, n'obéissent plus qu'à un seul langage, c'est le langage de la marchandise. Et effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Patrick, avec des acquaintances, des affinités, avec bien sûr la technique, parce que c'est quelque chose de formidable, avec des affinités, avec bien sûr le spectacle, parce qu'il faut quand même vendre, il faut quand même faire de la propagande, n'est-ce pas ? Alors, voilà. Je crois que peut-être deux, trois petits mots encore. Bon, vous avez compris que aujourd'hui, je pense que les formes d'évaluation... On a toujours évalué, hein. Je ne suis pas contre l'évaluation, j'essaie désespérément de faire entendre ça chaque fois que j'ai un débat politique ou public. On ne peut pas être contre l'évaluation. Quand on dit c'est bon, c'est pas bon, ah ben, il a été bien ce soir, ben non, qu'est-ce qu'il a été ennuyeux, elle est jolie, ah non, est-ce qu'elle n'est pas jolie, etc. On évalue sans arrêt. C'est pas ça le problème. On a toujours évalué. Moi, j'ai passé ma vie à évaluer des thèses, des masters, des copies de première année. C'est pas ça. C'est les formes sociales de l'évaluation qui ont changé. C'est qu'aujourd'hui, vous n'évaluez pas par une discussion, n'est-ce pas, de la valeur d'une thèse ou d'un article scientifique, n'est-ce pas ? Vous évaluez en fonction, encore une fois, des indices quantitatifs. Et vous fonctionnez de la même manière que les trois grandes agences de notation financière. Lesquelles ? Allez, je vous le dis, c'est extraordinaire. Moi, j'ai lu le livre du PDG de la troisième agence de notation financière, qui est français, c'est l'agence Fitch, n'est-ce pas ? Et alors, c'est incroyable, parce que je ne retrouverai sûrement pas mes notes, j'en ai parlé ce matin, à France Culture, parce que c'est assez incroyable. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. C'est assez incroyable. Donc, en même temps, il revendique le droit de noter. Il dit que c'est pas parce qu'on va casser le thermomètre qu'on va arrêter la fièvre. Bon, bref, vous connaissez tous ces arguments. Mais il dit quand même, on s'est fait avoir. C'est quand même extraordinaire. Donc, voilà une des agences les plus importantes, hein, troisième agence au niveau mondial, qui pilote quand même, qui va démettre un premier ministre grec. Qui va faire renverser Berlusconi. Berlusconi, il ne tombe pas pour ses affaires de fesses, mais il va tomber, si vous voulez, parce qu'il n'est plus conforme aux exigences, à un moment donné, du capitalisme financier, pour dire les choses très simplement, n'est-ce pas ? Et bien voilà, donc, cette agence, qui est une des agences qui pilote véritablement la politique globalisée, qui dit « on s'est fait avoir ». On s'est fait avoir, on s'est fait abuser. Alors pourquoi ils se sont fait abuser ? Parce que le gouvernement américain avait incité à ce que chaque Américain devienne un propriétaire. Et donc avait voulu faciliter les emprunts. Donc ils ont laissé monter des dossiers, n'est-ce pas, de personnes qui n'avaient pas les moyens d'emprunter. Vous voyez l'histoire de l'imposture. Et qui ont donc triché. On y revient. Ils ont triché. Ils ont triché. Et puis, à un moment donné, eh ben, il y a eu deux choses qui se sont... Enfin, plusieurs, mais au moins deux qui se sont produites. Il y en a, la première, c'est l'effondrement du marché immobilier. Chose assez extraordinaire aussi. Chose assez extraordinaire, c'est que vous avez donc ce type qui est vraiment pas bête, hein, et qui écrit des choses intéressantes, hein, et qui dit, Ah, mais on n'avait jamais vu depuis 45, on n'avait jamais vu la valeur de l'immobilier résidentiel n'avait jamais baissé sur un an aux États-Unis. Donc ça n'allait jamais baisser. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure ? Ce que j'essaie de vous dire, on entre dans l'avenir à reculons. On entre dans l'avenir comme si l'avenir ne pouvait être qu'un reflet du passé. Et donc toutes les décisions qu'on va prendre, on va les prendre comme si effectivement ça devait toujours être pareil. Donc premier truc, baisse bien sûr de l'immobilier résidentiel. Et puis deuxième chose, effectivement, les gens ont été surendettés. Bon, vous connaissez l'histoire de titrisation et autres. Ils ont été surendettés, ils n'ont pas pu payer. Et là, ils se sont aperçus que les dossiers avaient été falsifiés. Et ils disent, c'est assez joli, les agences de notation ont par ailleurs été trompées. Notre rôle n'est pas d'auditer les comptes, mais de les analyser. Donc, en somme, vous avez une économie mondialisée qui fonctionne sur des dossiers falsifiés, c'est-à-dire sur une imposture. Et là, c'est vraiment la preuve que nous sommes dans une déconnexion par rapport à la réalité. Alors, peut-être deux mots. Le premier, c'est un acte politique consiste justement à ne pas se réduire à une gestion des populations, à une administration technique des populations, et ne peut pas se réduire à une police des normes. Aujourd'hui, si nous ne sortons pas, n'est-ce pas, d'une rationalité purement budgétaire, d'une rationalité purement normative, il n'y aura plus de politique et nous finirons comme une société animale ou une société de robots. Vous avez le choix, hein, je vous laisse. Oui, vous avez une alternative, vous choisissez, vous l'animal ou le robot. Bon. Ça, c'est le premier point, c'est l'acte politique. Et cet acte politique, il ne peut être posé que sur le socle d'une réflexion culturelle, intellectuelle et culturelle. Et l'humanité, c'est quand même de ce côté-là que ça se situe. Alors,
oui, si vous permettez juste un mot, vous parlez de justement de cette crise de l'immobilier, mais le surendettement. Bon, le surendettement des personnes, des particuliers, donc il y a les dossiers falsifiés. Mais nous vivons dans des pays dont la plupart, les États sont surendettés.
Oui, oui, bien sûr. Bon,
donc on peut supposer en bonne logique que si les États sont surendettés, c'est qu'il y a aussi de la falsification quelque part. Parce que si les États... Enfin, bon, l'individu qui est surendetté, on sait bien à quel point il y a besoin d'une protection, il y a besoin de tout un tas de mesures, on met en place toute une série de choses, mais il y a aussi beaucoup de punitions pour les gens qui sont surendettés. On n'a jamais vu qu'un État puisse déclarer une dette faramineuse et que tout d'un coup, les gestionnaires soient punis. C'est-à-dire que ce qui arrive à l'individu moyen, l'individu moyen gérait ses affaires comme les gouvernants gèrent leurs affaires depuis 40 ans, il serait en prison. Donc il n'y a pas seulement... Il y a l'expertise, ça renverse un peu la question de l'expertise, parce qu'il me semble que vous ne soulignez pas assez, mais c'est peut-être parce que vous voulez préserver les experts, vous voulez que... Bon, il y a, d'une certaine façon, une imposture qui crée une imposture. C'est-à-dire que le processus de nomination des experts, les experts sont choisis et sont désignés en fonction, justement, de leur adhésion à cette nouvelle religion marchande, de leur adhésion à ce type de discours numérisé, de leur adhésion à cet aspect technique et purement formel. Donc, c'est pas seulement les formes qui créent l'imposture, c'est aussi que les experts du formalisme sont eux-mêmes des imposteurs, donc l'imposteur induit l'imposture. Vous avez une formule dans votre livre sur le crédit de l'imposteur et sur la façon dont il s'arrange pour entretenir la dette à son égard. Et je me demande si ça ne peut pas prendre une forme plus généralisée, puisque d'une certaine façon, tous les politiques sont aujourd'hui élus sur un discours à crédit. Ils font un emprunt, et un emprunt que dans la plupart des cas, ils ne remboursent jamais.
Alors... Si vous voulez, oui, il est évident que, de toute façon, l'imposteur vit sur le crédit qu'il obtient de l'autre.
Oui.
De toute façon, même parler d'expédients, ça montre bien comment c'est la stratégie pour sortir d'un piège qui est celui des exigences de devoir vivre et de devoir assumer sa vie. C'est intéressant, parce que si vous voulez vivre d'expédients, étymologiquement, expédient, ça veut dire se sortir d'un piège, se sortir les pieds d'un piège. Vivre d'expédient, c'est effectivement essayer de faire payer ses dettes à d'autres. Alors, bon, on peut parler des États, mais je n'avais pas pensé prendre, si vous voulez, cette... Oui. Bon, pour dire une chose déjà très simple, moi je fais partie du collectif Roosevelt 2012, qui demande par exemple la séparation des banques de dépôt et des banques d'investissement, qui demande par exemple que les États puissent emprunter comme les banques, puisque vous savez qu'à l'heure actuelle, les États, quand les États empruntent, ils empruntent à 100 voire 600 fois plus cher, n'est-ce pas, que les banques, toute une série de choses. Mais je pense c'est pas, si vous voulez, par rapport au livre, bon, ça, j'évoque toutes ces questions, mais j'essayais surtout de montrer qu'on avait la même matrice d'intelligibilité du monde, la même structure organisatrice des évaluations. Et, c'est-à-dire quelque chose qui repose beaucoup plus sur les apparences, beaucoup plus sur les marques, beaucoup plus sur le faire semblant, beaucoup plus sur les génuflexions des dévots de la religion du marché, effectivement, ou de la technique, que sur la réalité, sur la foi ou sur le pari politique. Mais peut-être quand même, avant peut-être d'ouvrir le débat, bon, on a beaucoup insisté tous les deux, je crois, là, sur la manière, effectivement, dont dans l'imposture, il s'agit de vendre l'apparence dans une société du spectacle et de la marchandise, et surtout du spectacle d'ailleurs. Peut-être dire quand même deux choses. Il faut voir, il faut se demander aussi pourquoi, à l'heure actuelle, on a ces formes de stratégie pour s'adapter aux exigences des normes. Et là, je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur, on va dire, la relative démission de ce qu'a pu constituer l'État dont Bourdieu nous dit qu'il a des fonctions analogues à une religion. Analogue à une religion. Et à partir du moment où, justement, l'État s'est désengagé, d'une certaine manière, de cette fonction sacrée, c'est la voie ouverte à cette hégémonie culturelle, effectivement, du spectacle et de la marchandise. Bon, on peut le dire autrement, et là, je ne vais pas ouvrir un débat, mais il va de soi que ce qu'on appelle le néolibéralisme, n'est-ce pas, non seulement c'est l'application des modèles d'intelligibilité économique à n'importe quel secteur de l'existence. Donc, en gros, c'est pas que les entreprises gagnent de l'argent, c'est normal. C'est pas qu'il y a un marché financier, c'est normal, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est en quelque sorte qu'on demande à des secteurs de l'existence sociale, comme le soin, la justice, la recherche, l'enseignement, de se modéliser sur, justement, n'est-ce pas, ce système-là. Et jusqu'à l'individu qui devient ce que Foucault appelle un entrepreneur de lui-même. Alors là, l'imposteur, effectivement, l'imposteur, c'est un très bon entrepreneur de lui-même, dont le capital est effectivement le crédit qu'il peut obtenir d'autrui par tous les moyens. Mais tous les moyens, c'est justement, pourrait-on dire, les valeurs mêmes, n'est-ce pas, de cette conception d'une vie qui n'est plus qu'un champ de course où il y a rivalité, compétition. Et ce qui compte, c'est le score. Alors, je ne vais pas prendre Armstrong, mais oui, en gros, mais vous pourriez prendre le professeur de psychologie sociale qui a été attrapé parce qu'il a fraudé. Vous pourriez prendre mais des tas d'exemples. Bah, les gens, ils disent, mais j'ai pas pu faire autrement. En gros, on me demandait un score, j'ai tout fait pour l'obtenir. Alors, donc je crois que les deux points, ce sera peut-être les points qui pourront peut-être relancer le débat aussi. Le premier, je crois que quelque chose s'est produit qui est l'effondrement d'une force contradictoire à l'hégémonie culturelle de la manière capitaliste de penser le monde. Il y a plusieurs formes de capitalisme, on pourra y revenir peut-être dans le débat, mais si vous voulez, lorsque... En 89, le mur de Berlin s'effondre. C'est un effondrement matériel qui opère, mais déjà parce qu'il y avait eu une érosion, n'est-ce pas, un émiettement des fissures à l'intérieur, pourrait-on dire, du mur symbolique, c'est-à-dire l'existence d'une autre force. Et donc, en termes de récit collectif, parce que je voudrais qu'on en dise quelques mots, en termes de récit collectif, si vous voulez, d'un coup, le mur de Berlin s'effondre, parce qu'il s'est déjà effondré quelque part dans les têtes. c'est-à-dire. Et là, il n'y a plus d'alternative, pourrait-on dire, à la manière néolibérale de penser le monde. Que peut représenter l'économie américaine, mais pas seulement. Que peut représenter la culture, pas seulement. Puisque justement, ce qui est absolument extraordinaire, j'en parlais ce matin, je pense à France Culture avec Philippe Petit, ce qui est absolument extraordinaire, si vous voulez, c'est qu'on avait souvent cru que, bah oui, le capitalisme c'était terrible, mais le commerce adoucit les mœurs, et au moins il n'y a pas la dictature. Le scoop, c'est qu'à la fin du XXe, début du XXe siècle, on s'aperçoit qu'il peut très bien y avoir une excellente copulation entre le capitalisme le plus dur et le totalitarisme le plus strict. On a pensé longtemps qu'il y avait, oui, d'accord, c'est vrai, le capitalisme, c'est terrible, mais au moins, ça nous évite la bureaucratie. Alors, le scoop, n'est-ce pas, le scoop, on le voit bien, surtout en Europe, là, il faut le dire, le scoop, c'est qu'effectivement, il y a une bureaucratie d'expertise qui s'est instituée, et qui fait qu'elle coûte d'ailleurs beaucoup plus. Bon, demandez un petit peu à la Cour des comptes combien coûte l'Agence d'évaluation de la recherche d'enseignement supérieur. Demandez combien coûte l'HAS, demandez combien coûtent les frais des agences de santé, etc. Combien coûtent toutes ces agences d'évaluation qui vous demandent de rendre des comptes, et vous, le temps que vous passez à rendre des comptes, du coup, vous ne travaillez pas. Alors là, comme vous le disiez, effectivement, en plus, ça produit une espèce de sélection. Alors moi, je ne pense pas à un complot. Je suis un peu contre les théories du complot. Je ne pense pas qu'il y ait un complot. Je pense qu'il y a des affinités électives. C'est-à-dire qu'effectivement, pour prendre des exemples très, très simples, très, très concrets, à partir du moment où les discours de légitimation sociale, n'est-ce pas, n'utilisent pas, c'est-à-dire au nom de quoi, dans le désordre, n'utilisent pas le savoir narratif, c'est-à-dire l'idéologie politique, la religion, c'est-à-dire les visions du monde, pour aller vite, mais utilise un savoir non narratif, comme disait Lyotard, c'est-à-dire les chiffres, le traitement numérique du monde. À partir de ce moment-là, vous avez une sélection naturelle, pourrait-on dire, qui se fait. Et effectivement, bah, du coup, par exemple, les spécialités médicales qui vont occuper le haut du panier aujourd'hui, c'est l'épidémiologie, c'est la santé publique, c'est l'économie de la santé, plus que, on va dire, la médecine interne. Enfin, la médecine interne d'avant. Aujourd'hui, elle s'est transformée en infectiologie. Mais, vous voyez, donc, c'est-à-dire que les spécialités cliniques, celles qui sont au chevet du malade, vont être pénalisées et vont être dévalorisées au profit, bien évidemment, des spécialités les plus techniques. C'est-à-dire celles dont le calibrage opère parfaitement avec des exigences normatives d'un système technique et marchand. Et ça, je crois que c'est un point important. Alors, peut-être juste un mot par rapport à ce que nous apporte quand même, de mon point de vue, la psychopathologie, et qui a fait que je me suis trouvé un peu au carrefour, justement, de cette analyse sociologique des mœurs, et en même temps, de cette psychopathologie clinique, pour aller vite, des tricheries, des impostures et autres. C'est que vous avez parlé tout à l'heure, Patrick, des personnalités assises, des personnalités comme si. C'est tout un travail qui est fait par Elena Deutsch dans les années 34, qu'elle va reprendre ensuite en 55, etc. C'est-à-dire le constat, et on va dire un mot là-dessus quand même, le constat de recevoir des personnes qui paraissent normales et il y a quelque chose qui cloche. Elles paraissent avoir des possibilités, elles sont bien adaptées. Elle parle d'une patiente, par exemple, qui est peintre, elle a un certain petit talent pour la peinture, mais quand même, son prof dit, il y a quelque chose qui cloche. C'est un peu comme si, comme un caméléon, elle épousait très vite les formes de l'environnement et que sa propre subjectivité, sa propre singularité, c'est ce qui fait l'acte créateur, n'est-ce pas, se trouver réduit, se trouver asséché. Et c'est très intéressant, à mon avis, cette psychopathologie qu'on trouve chez Deutsch, bon, qu'on trouve aussi chez Winnicott avec cette notion de faux soi. Bon, c'est ce qui est très intéressant, plus peut-être d'ailleurs que les imposteurs qui ont un côté plus obscène, plus évident, plus monstrueux. Ce qui est très intéressant, c'est que, en quelque sorte, ce sont des gens parfaitement adaptés, comme l'exigent les critères de notre société. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, l'individu normal, qui finalement a une culture du potentiel, comme on dirait en termes de management, qui a une culture du potentiel et qui peut finalement se couler dans l'ensemble des formes que l'on exige de lui, qui est hyper adapté, bah, il est terriblement malade. Il est terriblement malade et on a soit une apathie politique, et en plus, ce qu'on remarque très. Il y a une phrase qui moi m'a touché, que je cite dans le bouquin, c'est quand elle remarque que ces personnalités comme si, elles ont comme un instinct grégaire qui les pousse à se coller à des grands groupes totalitaires. On est en 34, hein, vous avez compris. 33 n'est pas très loin, si je veux dire. Et ça, c'est très très important. C'est très important parce que ces sujets n'adhèrent pas à ce qu'ils font. Et ça vous évoque rien, cette politique spectacle où on peut pourfendre le capitalisme financier, n'est-ce pas, à Toulon, et puis vanter les mérites de l'entrepreneur du laboratoire Servier, par exemple, au moment où on lui remet les ordres de commandant de la Légion d'honneur. Je veux dire, on a connu ce type de politique. C'est pas Sarkozy, il y a un sarkozisme sans Sarkozy. C'est toute une politique qui fait, en quelque sorte, n'est-ce pas, qu'il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de sens. C'est un peu comme si on fabriquait des citoyens amnésiques où une information chassait l'autre. Je vous jure, c'est terrible. Moi, je vois bien ce moment parce que... Bon, je ferai une petite confidence, vous ne mettrez pas sur le site, mais j'ai fait plusieurs émissions enregistrées sur un certain nombre de chaînes. Et puis, ensuite, on m'envoie un SMS en me disant « Vous êtes déprogrammé, on vous reprogrammera plus tard parce qu'il y a Depardieu, parce qu'il y a le Mali, parce qu'il y a le mariage pour tous. » C'est-à-dire qu'en gros... Vous voyez, c'est comme si on ne vivait que dans l'actualité. Et que une émission, pourtant c'est des journalistes super avec lesquels j'ai eu la chance de passer, ben, si vous voulez, ils sont contraints par une logique d'audimat qui leur impose de devoir d'abord répondre à la consommation attendue de produits d'opinion immédiatement branchés sur, si vous voulez, l'actualité. Je ne dis pas que ce n'est pas important, bien sûr que c'est extrêmement important. Moi, je ne parle pas de Depardieu, ça, ce n'est pas important. Voilà un homme très généreux, n'est-ce pas, qui nous a donné le meilleur en France et qui va exporter le pire. Donc, de toute façon, il n'y a vraiment pas à se plaindre, n'est-ce pas, de son départ. Mais je parle du Mali, bien sûr. Je parle du mariage pour tous. Voilà des sujets intéressants. Mais c'est presque comme si on les traitait, n'est-ce pas, dans l'actualité et pas dans un champ de réflexion critique. Et là, on voit bien en même temps l'effondrement de l'intellectuel, mais pas de l'intellectuel simplement social, de l'intellectuel en chacun de nous. C'est de ça dont je parle. Je m'en fous, moi, que les intellectuels s'effondrent en tant que, en tant que personne, c'est pas le problème. C'est en chacun de nous. L'intellectuel en chacun de nous s'effondre. Et ça, c'est très grave.
Bien, eh bien, il nous reste à remercier Roland Gory et nous remercions tous les intervenants d'avoir participé à ce débat très intéressant.
Merci à vous.